Merci à vous d'écouter Europe 1, il est presque 18h.
C'est triste, plus que même triste. Pourquoi quitter chez toi à la maison avec un couteau pour venir tuer quelqu'un qui travaille pour les gens?
Le choc et l'incompréhension à Pau. Un demandeur d'asile soudanais tue à coups de couteau le responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés. Il a été interpellé.
Le ministre de l'Intérieur est sur place. Les premiers éléments de l'enquête dès le début de ce journal avec notre correspondant.
L'impatience des familles dont les proches sont placés dans des EHPAD. Les trois quarts des résidents sont vaccinés. Mais le protocole sanitaire est toujours aussi strict.
Souriez, vous êtes surveillé. Attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Le fisc a désormais le droit d'y accéder pour vérifier si vous ne trichez pas sur votre train de vie réel.
Annie Hidalgo ou la tentation de l'Elysée. La maire de Paris pense très fort à 2022, mais elle doit d'abord compter ses soutiens. Son Tour de France passe par les grandes villes avec Nancy comme première étape.
Les mondiaux de ski et une deuxième médaille d'or pour le français Mathieu Febvre, sacré champion du monde du géant.
La mort de Philippe Chatel à 72 ans, on lui doit le célèbre conte musical Émilie Joly, succès français mais aussi mondial. Et puis la bourse de Paris a terminé en hausse de 0,79% à 5773 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et chouette, le week-end s'annonce printemps.
Oui, avec un soleil généreux sur une grande partie du pays demain et des températures toujours très douces. Je vous donne tous les détails de ce beau week-end à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'enquête ne fait que commencer à Pau, mais l'incompréhension domine après l'agression et la mort du directeur d'un centre d'accueil pour réfugiés.
Il a été tué à coups de couteau par un Soudanais en situation irrégulière qui a été interpellé sans difficulté. Alors on sait qu'il a 38 ans, mais ce qui intéresse les enquêteurs, ce sont les motivations du tueur présumé. Benjamin Péter, vous êtes en direct de Pau.
Oui, et bien ce qu'on sait, c'est que cet homme de 38 ans était donc arrivé du Soudan en 2015. Sa demande d'asile avait été refusée à plusieurs reprises. Et c'est un nouveau refus que Cyril, le directeur du CADA Isarkos, devant lequel je me trouve, lui aurait signifié ce matin, ce qui aurait déclenché sa colère et l'aurait poussé à le poignarder de 10 coups de couteau. Cyril, ce père de famille de 46 ans, est décédé quelques minutes plus tard. Léonard est l'un des pensionnaires de ce CADA. Il est arrivé de République du Congo il y a 2 ans et il connaissait bien la victime.
Cyril, c'est un homme bien attentif, l'homme qui écoute tout le monde. C'est notre patron, c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui, grâce à lui, que je suis là. Grâce à lui, j'ai fait la formation. Je suis découragé. C'est triste, plus que même triste. Pourquoi quitter chez toi à la maison pour venir tuer quelqu'un qui travaille pour les gens?
Voilà, alors ici devant le CADA, l'émotion est immense. Tous saluent le professionnalisme, l'investissement dans son travail de ce directeur, dont les collègues ont tout fait pour désarmer l'assaillant et sauver leur directeur.
Benjamin Péter en direct de Pau. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place il y a une heure environ. Nous l'écoutons.
J'ai décidé de me rendre ici. D'abord pour dire ma solidarité avec cette belle ville de Pau, à ses habitants, qui je sais sont meurtris dans leur solidarité. Et bien sûr à cette structure associative qui fait un travail admirable sur tout le territoire national, à ses collaborateurs, à ses bénévoles. Et une pensée évidemment à la famille de la victime, à ses enfants, une pensée évidemment à tous ses collègues.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au micro de Benjamin Péter à Pau. Europe 1, 18h03, la campagne de vaccination continue à son rythme en France. On a franchi hier soir le seuil du million de vaccinés. Il s'agit des personnes qui ont reçu les deux injections nécessaires.
Oui, et parmi ces personnes, il y a les résidents d'EHPAD. Les trois quarts ont été vaccinés. C'était l'une des priorités du gouvernement pour ce début de campagne. Un autre problème se pose maintenant, celui du protocole sanitaire que les pensionnaires trouvent trop strict, Victor Dolande.
Oui, je me suis rendu dans un EHPAD de Sartrouville, dans les Yvelines. Des visites limitées, pas plus de 3 personnes par semaine, 1 heure par visite. C'est parfois moins dans certaines maisons de retraite. Et pourtant, dans cet établissement, un peu plus de 60% des résidents ont reçu les 2 injections du vaccin Pfizer. Madeleine, 94 ans, en fait partie. Elle ne comprend pas pourquoi les règles sont toujours aussi strictes.
On a pris justement ce risque de se faire vacciner. C'était pour avoir un petit avantage dans notre vie.
Et cet avantage ?
On l'a pas. Ce manque de liberté, c'est quelque chose d'insupportable. On n'a rien fait de mal, nous. C'est pas notre faute, ça. On est comme si on était en prison.
À son âge, elle veut profiter au plus vite de ses proches.
Si j'étais jeune, je me dirais, bon, c'est un mauvais moment à passer, mais on récupérera. Mais moi, j'ai pas de temps pour attendre. J'en ai pas.
Vanessa Rino, directrice de cette EHPAD, plaide également pour un assouplissement du protocole sanitaire.
Je pense que les résidents se sont fait vacciner dans le but de retrouver un semblant de vie. Et je suis tout à fait dans cette optique. Donner un peu plus d'accès aux familles, laisser un peu plus de liberté aux résidents. Il faudrait vraiment assouplir les règles qu'il y a en ce moment.
Alors, nous avons interrogé le ministre de la Santé, Olivier Véran, hier soir lors de son point presse hebdomadaire. Il attend de savoir si la vaccination permet d'éviter les hospitalisations et les formes graves de la maladie dans les EHPAD. Dès qu'il aura ces données, il promet d'assouplir le protocole sanitaire. Mais je peux déjà vous donner un signe très encourageant. Selon les données de Santé publique France ce matin, les contaminations ont baissé de 40% dans les EHPAD lors des 15 derniers jours. À voir donc si cette tendance se confirme dans les 15 prochains jours au niveau des hospitalisations.
Merci beaucoup Victor Delande pour ce reportage donc dans les EHPAD. En Moselle, où l'on surveille l'évolution des variants, on a les premiers résultats de l'étude des eaux usées, prélèvement effectué dans une vingtaine de stations, et à la clé ce que l'on pourrait qualifier de bonne surprise.
Il n'y a pas d'explosion du virus. À ce stade, on constate une stagnation de la situation, indique la préfecture. D'autres prélèvements seront régulièrement effectués, puis envoyés à Marseille pour analyse.
Après Air France, hier, c'est au tour de Renault aujourd'hui d'annoncer des pertes records.
8 milliards d'euros l'an dernier, le constructeur paie le recul de ses ventes, moins 21% en 2020, et les très mauvais résultats de son partenaire japonais Nissan, qui a perdu près de 5 milliards d'euros.
Et on y reviendra dans votre journal de 19h. Cet avertissement maintenant à ceux qui seraient tentés de frauder le fisc. Les agents des impôts auront accès aux réseaux sociaux.
Ouais, Facebook, Instagram, Snapchat et j'en passe. Tout ce que vous postez pourra être vu par le fisc. Une surveillance des réseaux sociaux qui vient d'être officiellement validée par décret. Olivier Samin.
Et oui, l'administration fiscale va pouvoir scanner et analyser avec ses algorithmes les données que vous laissez sur votre compte Facebook ou Twitter. Et ça lui permettra de vérifier si ça colle bien avec ce que vous indiquez dans votre déclaration de revenus. Par exemple, vous invoquez votre statut d'expatrié qui vous permet de ne pas payer l'impôt sur le revenu en France. Eh bien, le fisc pourra regarder si, au cours de l'année, vous avez résidé au moins 120 jours à l'étranger, c'est la condition requise. Et si votre compte Facebook montre qu'en réalité vous avez passé l'essentiel de votre temps en France, vous aurez des nouvelles de l'inspecteur des impôts. Ce nouvel outil dans l'arsenal du contrôle fiscal vise aussi à repérer les trafics illicites en ligne, de même que le commerce caché. Par exemple, le brocanteur qui vend ses objets sur un site de vente en ligne réservé aux particuliers et qui, du coup, ne le déclare pas dans ses bénéfices professionnels. Il n'est pas question de traquer tous les Français, nous dit-on à Bercy, mais simplement de mieux traquer les fraudeurs en exploitant les données publiques qui apparaissent sur les réseaux sociaux, celles qui sont accessibles à tout le monde. La loi de 2019 a prévu que ce serait une expérimentation sur 3 ans et qu'un bilan sera fait ensuite devant le Parlement.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. La répression militaire en Birmanie fait un premier mort.
Une jeune fille est décédée après avoir reçu une balle dans la tête dans la capitale administrative. Les manifestations pour demander le retour de la démocratie continuent. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont encore rassemblées à Rangoon, la plus grande ville du pays.
Joe Biden prononce son premier grand discours de politique étrangère à l'occasion de la conférence sur la sécurité. Il met la Chine en garde.
Le président américain appelle à lutter contre les abus économiques de la Chine. Tout le monde doit jouer avec les mêmes règles, dit-il. Joe Biden estime que l'attitude du gouvernement chinois sape les fondations même du système économique international.
Au Royaume-Uni, la rupture entre la famille royale et le couple Harry-Meghan est consommée.
Et oui, c'est le palais royal de Buckingham qui l'a annoncé aujourd'hui. Le prince Harry et son épouse Meghan perdent leurs derniers titres royaux. Les ponts sont donc définitivement rompus avec la famille royale.
La politique 2022, c'est déjà demain. Pour ceux qui rêvent de l'Élysée, Anne Hidalgo n'a encore rien dit de ses intentions. Cela n'empêche pas de prendre le pouls sur le terrain.
La maire de Paris rêve d'incarner la solution à gauche, mais elle va devoir convaincre ses détracteurs. Et il y en a. Certains soulignent son déficit de notoriété, d'autres s'interrogent sur sa capacité à rassembler au-delà de son propre camp, ce qui explique sans doute cette tournée des grandes villes françaises. Claudia Bertram, une tournée qui a donc commencé à Nancy.
Absolument, Anne Hidalgo prépare le terrain même si elle ne veut surtout pas parler de campagne. Elle a tenu à bien préciser, il ne s'agit pas d'une déclaration de candidature et redit qu'elle prendra sa part pour 2022, notamment pour proposer une alternative au duel Macron-Le Pen.
J'ai très peur de ce qui peut se passer en 2022 et je n'ai pas du tout envie que notre pays connaisse le chaos qu'il connaîtrait si l'extrême droite arrivait au pouvoir. La meilleure façon d'éviter ça et que ce temps de débat sur qu'est-ce qu'on veut puisse avoir lieu avec les Français, partout sur le territoire.
Répondant à l'invitation du nouveau maire socialiste de Nancy, Mathieu Klein, Anne Hidalgo a d'abord rencontré des soignants de l'hôpital de la ville avant un temps d'échange avec une vingtaine de jeunes. Devant eux, elle défend à nouveau l'idée d'une aide d'urgence.
C'est ce qu'on essaye de faire valoir, cette idée qu'il faut une aide financière pour tous les jeunes qui leur permette de se projeter avec un peu de sécurité.
Prochain déplacement en vue, Bordeaux en mars. Le rythme devrait rapidement s'accélérer avec un déplacement toutes les une ou deux semaines dans des villes de gauche ainsi que des territoires ruraux. Le but, confie un de ses proches, c'est bien d'envoyer un signal sur sa capacité à rassembler, dit-il.
Claudia Bertram à Nancy pour Europe 1. La maire de Paris qui va devoir en attendant gérer un problème local qui concerne beaucoup de franciliens, celui des vélos en libre service.
Ah, et il faut s'attendre à voir les prix grimper à Paris et dans sa proche couronne. Vélib n'est toujours pas rentable. Les 57 communes du Grand Paris vont donc devoir remettre de l'argent sur la table. Les utilisateurs de Vélib électriques seront également mis à contribution via une hausse des tarifs. Une nouvelle grille tarifaire devrait voir le jour dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Et on vous le disait, une médaille d'or pour un Français au Mondiaux de ski.
Mathieu Fèvre remporte le géant à Cortina d'Ampezzo en Italie. À 29 ans, le Français vit un rêve d'autant plus qu'on ne l'attendait pas. À pareille fête, Corinne Boulou.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a 10 jours encore, il ne faisait pas partie des favoris. Mais son titre mondial en parallèle, mardi dernier, l'a complètement libéré. Longtemps dans l'ombre d'Alexis Pinturault, le champion d'Isola 2000, en difficulté ces dernières saisons, a signé aujourd'hui le plus grand exploit de sa carrière, le jour J, quand le favori Alexis Pinturault est lui parti à la faute. Mathieu Fèvre est bien le nouveau champion du monde de géant. 53 ans après Jean-Claude Killy, 55 ans après Guy Perilla. Une performance XXL, à peine croyable, comme il l'exprime au micro européen de Romain Libardi à Cortina.
Ouais, très honnêtement, j'ai encore du mal à y croire. Après, il y a tellement de choses qui sont arrivées d'un coup, en fait. Après le parallèle, je me demandais qu'est-ce que ça pourrait faire d'être champion du monde de géant. Enfin, en tout cas, d'avoir une médaille en géant et... aujourd'hui, c'est quand même un autre délire pour ma part.
Et pour Alexis Pinturault, quelle déception! Après une première manche magistrale qui lui permettait de rêver enfin à cet or qui le fuit en géant, ses efforts étaient anéantis quelques portes après son départ en seconde manche.
Il y a peut-être eu un peu de précipitation, en tout cas sur cette porte, et puis voilà, c'est ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir prendre un peu de temps déjà aujourd'hui, il faut essayer de tourner la page, parce que c'est forcément décevant. Hein. Donc on va essayer surtout de passer à autre chose et puis de rebondir pour dimanche.
Oui, Alexis Pinturault, médaillé d'argent et de bronze, aura en effet une dernière chance de s'illustrer, cette fois en outsider dans le slalom dimanche. Mathieu Fèvre, lui, termine ses mondiaux avec 2 médailles d'or autour du cou qui couronnent enfin son talent.
Bravo à lui et merci à vous, Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. En tennis, on connaît le programme des 2 finales de l'Open d'Australie.
Oui, parce qu'il manquait l'affiche homme. Novak Djokovic affrontera Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial, va disputer sa 9e finale à Melbourne et il les a jusqu'à présent toutes remportées.
En rugby, un cas positif de Covid-19 parmi les joueurs du 15 de France. Il s'agit d'Antoine Dupont qui a été testé positif. On attend avec beaucoup d'inquiétude le résultat des autres tests.
Le football avec la 26e journée de Ligue 1. Un match ce soir. Lyon se déplace à Brest. En cas de victoire, les Lyonnais prendront provisoirement les commandes du championnat.
Et puis on voulait terminer ce journal avec un hommage. Philippe Châtel vient de nous quitter. Il avait 72 ans.
Et on lui doit un conte musical mondialement célèbre, Émilie Jolie. Cette comédie musicale a accompagné plusieurs générations. Mais Philippe Châtel avait bien d'autres cordes à son arc, Angèle Châtelier.
Je m'appelle Émilie Jolie.
Cette voix enfantine, c'est celle de Séverine Vincent, 6 ans, la première chanteuse à s'être mise dans la peau d'Émilie Jolie, le phénoménal album musical que Philippe Châtel a écrit pour sa fille dans les années 70. Un album pour lequel il a invité des interprètes prestigieux, Julien Clerc, Sylvie Vartan, Henri Salvador, Françoise Hardy. Plus 1 million d'exemplaires vendus. Mais avant Émilie Jolie, Philippe Châtel avait déjà eu du succès avec 2 chansons, Je t'aime bien Lily et Ma lycéenne.
Tu veux quelqu'un qui te comprenne.
Philippe Châtel s'est toujours entouré de la florissante scène française. Il est d'abord le coursier d'Henri Salvador, puis l'ami de Georges Brassens. Il devient même écrivain en signant la biographie du chanteur. Alors oui, Philippe Châtel publie au fil des années un autre conte musical, des albums de chansons, mais rien n'aura le même succès qu'Émilie Jolie. Au point qu'en 1997, de nouveaux interprète s'approprie les chansons. Alain Bachung, Axel Red, Étienne Dao et même Johnny Hallyday dans le rôle du grand oiseau.
Tu t'appelles Émilie Jolie.
En 2006, sa vie est bouleversée. Philippe Châtel est victime d'un accident de quad qui le plonge dans un coma de 3 mois. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'il reprend la plume et use de nouveau de sa voix avec Renaissance, son 8e album, le dernier. Émilie Jolie aura été le fil rouge de sa vie. Philippe Châtel avait même pour projet de réunir la nouvelle génération d'artistes une nouvelle fois autour de ses chansons.
Mais y a tant de choses à voir avant
C'est le conte que l'on se passe de génération en génération. Hommage à Philippe Châtel, signé Angèle Châtelier.
Il y a tant de choses à voir avant.
Philippe Châtel dans le journal donc de Christophe Lamar, que l'on retrouvera à 18h30 et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Anissa Haddadi, le soleil, bonne nouvelle, va dominer demain.
Oui, sur les trois quarts du pays, la journée va commencer sous le soleil. Effectivement Isabelle, c'est le nord-ouest et la Bretagne en particulier. C'est là que le ciel sera le plus couvert avec pas mal de nuages et quelques gouttes sur le Finistère tout au long de la journée. On a une perturbation qui va stagner hein, entre la Bretagne et le Cotentin, là sur les côtes de la Manche. Elle va stagner, elle n'est pas très violente cette perturbation, mais elle va quand même apporter un petit peu d'humidité sur la Bretagne. Dans le sud, nous avons toujours des entrées maritimes qui, elles, viendront voiler le soleil avec d'ailleurs sur les Cévennes des averses toute la journée. Partout ailleurs, entre la Bretagne et la Méditerranée, là nous avons un temps printanier avec un soleil qui domine, vous le disiez Isabelle, la perturbation donc ne va pas avancer demain. On va avoir du très beau temps et samedi et dimanche, hein, ça va être un week-end très sympa. Il faut savoir que le vent du sud, lui, va souffler et on aura ce week-end, ça va être à surveiller, il faudra rester à l'écoute d'Europe 1, un phénomène de sable du Sahara dans le ciel qui va remonter encore sur la France comme on a déjà eu il y a une quinzaine de jours sur Lyon effectivement. Donc on risque d'avoir encore un ciel un petit peu orangé ce week-end. Les températures, elles sont douces avec 2 à 15 degrés demain matin. Nous aurons 8 degrés à Lille et Paris, 10 à Marseille, 15 à Biarritz et dans l'après-midi 13 à 22 degrés. Il fait très doux.
Oui, effectivement. Merci Anissa. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.